Radio Okapi.
Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC ne restent pas indifférents. Ils affirment apporter leur soutien à la RDC pour le retour de la paix. Des précisions dans quelques instants. Une très bonne nouvelle pour les magistrats congolais. Le Conseil supérieur de la magistrature et la société d'assurance Activa conviennent de la prise en charge d'environ 5000 magistrats en ce qui concerne notamment la couverture santé. John Banyene, le président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu, est notre invité. Il nous fait le point de la situation sécuritaire actuelle dans la ville de Goma. Mesdames et messieurs, bonjour. Les dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC apportent leur appui politique, diplomatique et militaire à la RDC. Ils l'ont dit ce samedi à Harare, à l'issue du 44e sommet de cette communauté. Les travaux du 44e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC ont abordé les questions d'économie, d'énergie ainsi que des questions de paix et de sécurité au sein de la sous-région. Des détails avec Alain Rung.
Au sujet des questions sécuritaires au sein de la SADC, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a été au centre des discussions pendant les travaux de la Troïka de l'organe ainsi qu'au cours des travaux de la plénière des chefs d'État. Selon la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba, les dirigeants de l'Afrique australe ont apporté leur appui politique, diplomatique et militaire à la RDC. L'engagement continu de la SADC par rapport à la SAMI-RDC, la présence de la force militaire de la SADC au Nord Kivu, ainsi que l'engagement au sein de la SAMI-RDC des troupes combattantes de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie figurent parmi les décisions prises par les chefs d'État en faveur de notre pays, a déclaré Madame Thérèse Kayikwamba. La ministre d'État aux Affaires étrangères a aussi ajouté que la SADC a exprimé son engagement et fait part de sa préoccupation face à l'épidémie de Mpox qui frappe la RDC. La SADC soutient une riposte rapide et efficace tout en s'inspirant de la prise en charge de la pandémie de COVID-19. Au cours de ce sommet, le président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa a été investi président en exercice de la SADC et a reçu les symboles de la présidence tournante des mains de son prédécesseur, l'Angolais João Lourenço.
Merci à vous, Alain Rung, pour toutes ces précisions. Et en Ituri, les différentes communautés ethniques du territoire des Djougou s'engagent à mettre de côté leurs différends et à travailler ensemble pour la promotion d'une paix durable. Cela à travers le dialogue inclusif qui va regrouper toutes les parties, notamment les leaders des groupes armés communautaires, religieux et les acteurs politiques de cette entité pour la réconciliation et la cohabitation pacifique. Cet engagement est pris à l'issue de deux journées d'échange sur les conditions socio-sécuritaires dans les territoires des Djougou. Ces assises sont organisées par la coordination de la société civile, le caucus des députés des Djougou et la plateforme des communautés locales UNADI. Isaac Raymond.
Les représentants de cette communauté ethnique des territoires des Djougou, Emma, Bale, Banyarikilo, Mabendi, Mambisa, Ndo, Kebu et les Pygmées ont pris part à ces assises. Ils ont passé en revue l'évolution de la situation sécuritaire depuis 2017 dans ces territoires marqués par la naissance des groupes armés dont Codeco, Zaïre, Mapi pour la défense ou la protection des membres de leurs communautés respectives, ce qui a exacerbé les conflits avec comme conséquence des pertes en vies humaines, les pillages des biens, les déplacements des populations et la destruction des infrastructures scolaires et sanitaires. Animé par une détermination et l'éveil de conscience collective en faveur de la paix, la réconciliation et la reconstruction de ces territoires, ils ont résolu de mettre fin à leurs différends et de travailler ensemble pour la promotion de la paix. Un programme de réconciliation pour guérir les blessures du passé, promouvoir le pardon et établir les mécanismes de coexistence pacifique est mis en place, déclare la société civile. Les membres de ces communautés se disent convaincus que les renoncements aux violences et les dialogues sont les moyens efficaces pour une paix durable. Ils ont demandé aux différentes milices de déposer les armes et d'adhérer au processus de DDRCS et au gouvernement de renforcer l'effectif des FARDC pour créer un environnement propice à la paix. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pendant ce temps au Nord Kivu, après deux semaines d'exil forcé en Ouganda, près de 100 policiers congolais sont enfin de retour au pays. Ces hommes qui avaient fui l'occupation par les rebelles du M23 de la cité frontalière d'Ishasha dans le territoire de Rutshuru sont actuellement basés dans le territoire de Beni. Les détails avec Martial Papi Mukeba.
Ils sont au total 97 policiers porteurs de leurs armes et accompagnés de certains de leurs dépendants, notamment des femmes et des enfants, qui sont revenus en RDC ce vendredi 16 août 2024. Les retours s'est effectué par la frontière de Kassindi-Loubiria, où ils ont été accueillis par le colonel Euta Omeonga-Jack, administrateur du territoire de Beni. La cérémonie d'accueil s'est déroulée en présence des responsables des FRDC, de la police et du renseignement militaire dans la région, qui ont procéder à leur identification et aux formalités d'immigration. Des sources sécuritaires rapportent que ce retour a été coordonné entre les autorités ougandaises et congolaises. Selon l'administrateur du territoire de Beni, ces policiers sont actuellement pris en charge par le gouvernorat du Nord Kivu et seront temporairement rapatriés à l'état-major de la police nationale congolaise du district d'Oicha en attendant les instructions des autorités nationales. Rappelons qu'ils avaient fui le 4 août 2024 l'occupation de la cité frontière de Chacha par les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Parlons de la couverture santé, prévoyance sociale et frais funéraires pour les magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature et la firme Activa ont signé vendredi une convention d'assurance. Cela intervient après la signature du protocole d'accord pour la construction des résidences dignes pour les magistrats dans leur cité située à Maluku, ici à Kinshasa. Jeff Ngoy.
Le Conseil supérieur de la magistrature et Activa conviennent de la prise en charge d'environ 5000 magistrats. Activa exprime sa satisfaction auprès des dirigeants du CSM, dont le président Dieudonné Kamouleta, pour avoir permis la matérialisation de ce projet après plusieurs mois d'études. Elle assure les magistrats de son accompagnement dans la prise en charge de leur santé, humanité et de mettre en place des frais funéraires en cas de décès. Tout est mis en œuvre pour que le contrat entre en vigueur dans les meilleurs délais. La prochaine étape va concerner le recensement des magistrats afin de démarrer le dit contrat. Selon le secrétaire permanent du CSM, Telesphore Ndouba, les magistrats ne sont pas pris en charge quand ils tombent malades ou quand ils meurent. L'article 25 du statut des magistrats stipule que la prise en charge des soins de santé et de funérailles des magistrats avec leurs dépendants est assurée par l'État. Mais cela n'a jamais été appliqué.
Par ailleurs, la province du Congo central va recevoir en septembre les premiers lots du vaccin antipaludisme VAP en sigle. C'est dans ce cadre que les leaders communautaires de la ville de Boma ont été sensibilisés vendredi sur le bien fondé du vaccin contre la malaria. Cette activité, organisée par la mission conjointe Programme élargi de vaccination PEV et le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP, venu de Kinshasa, vise à vulgariser l'importance du vaccin contre la malaria en RDC où les statistiques des décès dus à cette maladie sont alarmantes selon les organisateurs. Dans son adresse à cette occasion, Dr Samuel Lumbu du PEV Kinshasa invite les participants à répercuter le message à la population afin qu'ils soient bien informés avant le déploiement du vaccin. Des précisions avec Nana Plurichmambo.
La RDC se lance dans la vaccination contre le paludisme après les Malawi, la Côte d'Ivoire et les Ghana où la VAP produit déjà de bons résultats. Cette vaccination concerne les enfants de 6 à 23 mois. Les vaccins seront administrés lors des activités de consultation préscolaire. Pour être complètement vacciné, chaque enfant recevra 4 doses. À 6 mois, à 8 mois, 9 et 15 mois. Si cette activité vaccinale n'est ciblée que dans un premier temps les enfants, c'est parce que d'après Dr Jérôme Ntangu, expert national au PNLP, les taux de décès dus au paludisme est très élevé. En 2023, plus de 27 millions de cas de paludisme ont été enregistrés, parmi lesquels 22 000 décès dont 15 000 enfants de moins de 5 ans. Cependant, avec les VAP, le gouvernement de la RDC attend baisser les cas d'hospitalisation et réduire les taux de décès dus à cette maladie. Cette sensibilisation sur les bien fondés du vaccin contre la malaria a bénéficié aux acteurs communautaires, leaders d'opinion et membres de la Task Force Communication Antenne PEV Boma, ainsi qu'aux professionnels des médias. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Rendons-nous dans la ville de Gemena, dans le sud d'Ubangi, où les ministres provinciaux ont été investis ce samedi par l'Assemblée provinciale réunie en session extraordinaire depuis une semaine. L'Assemblée provinciale n'attendait jusque-là que la publication de l'équipe gouvernementale intervenue tard la nuit de jeudi. C'est après plusieurs tractations entre les forces politiques de la province que le gouverneur a publié son gouvernement en vue de relever les défis auxquels la province est confrontée. Le compte rendu de Paul-Richard Malengela.
L'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi, expressément convoquée en session extraordinaire, vient de procéder ce samedi à l'investiture du nouveau gouvernement provincial. La cérémonie a eu lieu au cours d'une plénière solennelle, a précisé le vice-président de l'organe délibérant, Papi Malumba. Conformément à la loi en vigueur, le gouverneur Michel Mobonga a formé une équipe de 10 ministres dont une seule femme. 3 anciens ministres y sont repris au poste actuel de ministre de la Justice, du Genre, ainsi qu'au secrétariat exécutif du gouvernement. Selon le poids politique, les postes sont répartis principalement entre le MLC, le CDR et la REB. Si le puissant ministère de l'Intérieur, Sécurité et Ordre Public est attribué à Gabriel Mbombo, l'unique femme ministre, Marie-Thérèse Tontoua, elle, est nommée à la tête du Genre, Famille et Enfants, Culture et Arts, Communication et Médias. Entre-temps, le cadre de concertation de la société civile de Sud-Ubangi se réjouit à travers son président Gilles Mopila. Il formule les attentes de voir ce gouvernement juguler entre autres l'insécurité alimentée par des braquages, mais aussi améliorer le mauvais climat des affaires et la mauvaise gouvernance dans l'administration, les finances et la justice. Bondaka pour Chamalengela, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que le 10e congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, se tiendra à Kinshasa du 17 au 19 septembre prochain. Annonce faite ce samedi par les comités directeurs de cette structure au cours d'un point de presse tenu ici dans la capitale. Après une crise installée pendant 3 ans, le gouvernement dit vouloir mettre de l'ordre au sein de la Corporation des professionnels des médias en finançant ce congrès qui réunira les journalistes des 26 provinces de la RDC ainsi que le comité scientifique des experts. On écoute l'extrait du communiqué convoquant le 10e congrès de l'UNPC lu par le secrétaire général Diesbi Zegblawembulu au micro de Richard Junior Kamunga.
Vu l'article 24 des statuts de l'Union nationale de la presse du Congo qui stipule que les membres du comité directeur ont un mandat de 4 ans, renouvelable une fois et qu'en vertu de cet article, le mandat des membres du comité directeur élu lors du congrès ordinaire tenu à Moanda au Congo central du 5 au 7 octobre 2020 arrive à terme le 7 octobre 2024. Conformément à l'article 10 du règlement intérieur de l'Union nationale de la presse du Congo et consécutivement aux recommandations des états généraux de la communication et médias, il est convoqué ces jours le 10e congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo sous l'impulsion du bureau exécutif après avis du comité directeur lors de la réunion stratégique tenue au centre culturel Boboto du 19 au 21 décembre 2022 à Kinshasa. Ordre du jour. Rapport des activités de l'Union. 2. Amendement et adoption des textes statutaires et réglementaires de l'Union. 3. Élection des animateurs de tous les organes de l'Union. 4. Installation du comité directeur et enfin 5. Divers. Lieu Kinshasa. Date du 17 au 19 septembre 2024.
Au chapitre de l'éducation, vous le savez, la rentrée scolaire 2024-2025, c'est déjà pour le 2 septembre. Dans le souci de bien accueillir les enfants, les chefs d'établissement du primaire et secondaire des écoles conventionnées islamiques du Maniema examinent au cours de leur réunion préparatoire les forces et faiblesses de l'année passée en vue d'une amélioration. On écoute à ce sujet Yahya bin Amissi Muslim, conseiller résident des écoles conventionnées islamiques au micro de Florence Kizalunga.
Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'application du calendrier scolaire tel que signé par le ministre de l'Enseignement qui prévoit le 16 de ce mois une réunion préparatoire de chefs d'établissement avec leurs gestionnaires de proximité. C'est pour ça que je les ai réunis afin qu'on puisse voir le travail qu'ils ont réalisé au cours de l'année passée et préparer ce qu'ils doivent faire pour l'année prochaine. Nous voudrions voir est-ce que nos chefs d'établissement sont en mesure de jouer correctement leur rôle? Quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses? Il y a ce que nous appelons indicateurs dans la réalisation des activités. Nous sommes en train de mesurer où est-ce qu'ils ont failli, quels remèdes faut-il donner pour que nous puissions répondre aux instructions officielles. Parce que nous gérons avec les instructions et nous ne devons pas être à l'encontre des instructions. C'est pourquoi nous les appelons ici pour renforcer leurs capacités, les outiller pour qu'ils puissent exercer correctement leurs tâches dans les écoles respectives.
Et puis, l'année académique 2023-2024 va se clôturer le 16 septembre 2024. C'est ce qu'indique le calendrier réaménagé rendu public ce samedi par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo. Ce calendrier prévoit l'ouverture solennelle de l'année académique 2024-2025 le 28 octobre. Les établissements de l'ESU ayant encore des litiges, des délibérations ou des années qui se chevauchent sont appelés à les épuiser avant cette date, indique la ministre dans sa note circulaire adressée au chef d'établissement.
Actualité internationale.
Au Mali, plusieurs partis et associations politiques soutiennent le président du Haut Conseil islamique du Mali, Hassim Cherif Ousmane Madani Aïdara, qui appelle la junte à engager le dialogue avec tous les groupes armés, djihadistes ou non. Le président du Hassim, la plus importante association des musulmans du Mali, avait fait cette proposition le 15 août dernier au cours d'une rencontre avec les autorités.
L'invité.
C'est le président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu. Dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi, cet acteur parle des causes profondes de la persistance de l'insécurité dans la ville de Goma et envisage quelques pistes de solutions à cette crise sécuritaire qui secoue la ville. John Banyene s'entretient avec Gabriel Wamenya.
Monsieur John Banyene, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi il y a persistance de l'insécurité dans la ville de Goma?
C'est dû à beaucoup de critères. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre et presque tous les périphéries de la ville de Goma sont sous la prise de l'ennemi. Et pour dire, la ville de Goma, actuellement, elle est surmilitarisée et il y a beaucoup de déplacés, voire même de militaires incontrôlés, beaucoup de VDP, même des fonds Ouazalendou, tous. Donc, actuellement, vraiment, s'il y a l'insécurité dans la ville de Goma, c'est dit d'abord par cette situation de la guerre.
Alors, quels sont les facteurs majeurs qui favorisent cette insécurité?
Je crois qu'il y a beaucoup de facteurs, mais parmi ces facteurs, là. Je crois que dans le mois d'avril, il y a eu une réunion mixte de sécurité. La population a relevé pas mal de problèmes qui sont à la base de l'insécurité.
Lesquels problèmes, par exemple?
Effectivement, je voulais en arriver. C'est comme aujourd'hui dans la ville de Goma, avec cette problématique de marché pirate. Les gens, on dirait, ils ont le monopole d'aller voler et d'aller vendre aussi aux vies de tout le monde. Aussi longtemps qu'il y aura toujours ce marché pirate, c'est favoriser le vol et le banditisme. De deux, c'est la circulation des armes, ça contrôle. Et là, nous avons toujours dit que c'est un problème de commandant d'unité. Parce que les militaires ne doivent pas venir circuler dans la ville si comme si ils ne sont pas contrôlés. C'est un problème de commandement. Donc, les commandants de ces différentes troupes, s'ils ne sont pas aussi inquiétés et être interpellés, cette sécurité va toujours persister. De même pour les Ouazalendou, donc le VDP, et leurs commandants, ils doivent être à la hauteur de contrôler leurs troupes. Parce que vous allez voir des hommes en armes, en tenue militaire, vagabondés, excusez du terme. Parce que vous verrez certains dans des véhicules non matriculés, d'autres sur des motos, je ne sais pas. Et tout ça, ils sont en train de commettre des dégâts. Pourquoi? Parce que les commandants des unités ne contrôlent pas convenablement leurs hommes. Au Mao, pendant cette réunion, on avait dit qu'il fallait qu'on procède à la diminution des effectifs de PCR dans les différents carrefours. Pour que ces PCR-là, ceux qui sont encore très forts, d'aller aider la police territoriale pour ce qui concerne les patrouilles nocturnes et diurnes.
Il y a toute une série de mesures sécuritaires qui ont été prises par les autorités, notamment avec le lancement de l'opération Safi Chamoudio à Goma, l'interdiction aux motards de circuler au-delà des 18 heures. Le commandant de la 34e région militaire avait donné l'ordre aux militaires de s'identifier auprès de chefs de quartier avec leurs armes. Dernièrement ici, le gouverneur a parlé de l'arrestation des faux Ouazalendou. Quel est votre constat par rapport à l'exécution de toutes ces mesures?
Quelque part, nous pouvons dire que ces autorités-là sont aussi dépassées par certaines mesures qu'ils sont en train de prendre. Parce que s'ils pouvaient faire respecter les différentes mesures prises, vraiment, je crois que ça pouvait aller.
Et selon vous, que devraient faire les autorités?
Premièrement, les autorités devraient d'abord interdire la circulation des hommes en armes. Parmi les premières mesures, il ne fallait pas qu'il y ait beaucoup de militaires dans la ville de Goma. Il fallait que tous ces militaires aillent sur les lignes de front. Aussi longtemps que ces gens viendront circuler, vaille que vaille dans la ville, il y aura toujours des dégâts. Il n'y a pas un suivi.
Alors, pour que ces mesures soient efficaces, au-delà de ça, qu'est-ce que les autorités devraient encore faire pour rendre très efficaces ces mesures?
Par rapport aux mesures que les autorités doivent prendre, ils doivent faire respecter ces mesures. Je venais de vous le dire tantôt, quand nous étions dans la réunion mixte de sécurité de la commune de Goma, Karisimbi, Nyiragongo, voire même certains déplacés qui étaient dans la réunion, on avait dit que immédiatement, les délais c'était immédiat de supprimer par exemple les marchés pirates.
Pour terminer, quelles sont d'autres dispositions alternatives pour tenter de juguler tant soit peu l'insécurité dans la ville de Goma?
Ce que les autorités devraient faire, c'était d'abord que tous les militaires, tous les officiers devraient rejoindre leurs unités. Ceux qui n'ont pas d'unité, là, le gouvernement central devrait aussi intervenir, nous aider à délocaliser tous ces officiers, tous ces militaires qui n'ont pas d'unité ici au Nord Kivu et les ramener dans d'autres provinces, ça pourrait nous aider.
Monsieur John Banyan, je vous remercie.
Notre invité s'entretenait avec Gabriel Wamenya. C'est la fin de ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Alain Rung. Jean-Claude Nsiala, Mwana Makengo Nsualu, a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi était à la présentation. Merci d'avoir écouté ce radio-journal que vous avez la possibilité de retrouver sur www.radiokapi.net.